nous mettrons fin au sujet intitulé « La passion de Jésus-Christ ». Et nous traiterons ce matin comme cet après-midi le crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons ce matin lire dans l'Évangile de Luc au chapitre 23 et au verset 26. Jésus marche donc vers Golgotha où il est emmené. Maintenant, il est prêt à boire la coupe. Et nous avons vu que boire la coupe, ce n'était pas seulement le fait même de la mort, qu'on pourrait considérer à juste titre comme boire la coupe, mais c'était surtout d'accepter avant de la boire, et nous avons vu que cela s'est déroulé à Gethsémané, et nous avons aussi noté le sens que cela prenait. Et maintenant, il s'agit de boire la coupe qui est acceptée par le Seigneur. Le voici chargé des iniquités de ses frères, les hommes. Sur le chemin de la croix, voici que Jésus est seul, absolument seul. Et cela, je crois l'avoir expliqué aussi, est une chose indispensable. Il est impossible que la chair soit tant soit peu associée à l'œuvre de rédemption qu'accomplit le Seigneur. Rien, même pas une aide, rien, pas une aide morale, rien. Et c'est pourquoi Zacharie avait dit « Frappez le berger ». Et les brebis seront dispersées. Il était donc indispensable que cela fût ainsi. Et Ésaïe le prophète avait vu le Messie souffrant comme l'homme méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il est seul dans l'accomplissement des actes, des grands actes, des actes terribles de Dieu, ce qui est ici le plus grand des actes de Dieu. Et voici que Simon de Cyrène, un paysan qui revenait des champs, passe par là. Et ce jour-là, chose absolument imprévue, inattendue, sa route croise celle de Jésus marchant vers la mort. Les soldats l'interpellent. Il n'y a aucun autre que lui. Il l'interpelle et il lui demande de porter la croix de Jésus. Le Seigneur, en effet, après la flagellation, après une nuit sans sommeil, et emmené qu'il avait été d'une autorité à l'autre, pouvait montrer quelque affaiblissement. Et les soldats ont mission de le conserver valide pour le supplice. Ils n'auraient pas pu le supplicier s'il avait vraiment défailli physiquement. C'est pourquoi les soldats, se rendant compte que la charge est trop lourde pour lui et le chemin encore trop long sous cette charge, ne se saisissent de Simon pour lui faire porter la croix. Les routes de Simon de Cyrène et de Jésus ce jour-là se croisent. Pour Simon, c'est un opprobre qui lui est imposé. Porter cette croix qui est destinée aux criminels, porter ce bois d'ignominie, ah non, c'est quelque chose à quoi il se refuse. Lui qui peut penser, mais je suis honnête, je n'ai rien fait, je n'ai encouru aucune peine, je ne dois rien à la société. Je ne suis pas de ceux que l'on puisse incriminer. Je fais tranquillement mon métier. Alors, qu'a-t-on à me reprocher et pourquoi me charger de cet instrument de supplice ? L'évangile de Matthieu nous dit qu'il fut contraint de porter la croix. Pour cet homme, voici que soudain, la vie prend un tournant inattendu. Il a croisé le Fils de Dieu allant à la mort, et comme le précise l'évangile de Luc, il est derrière Jésus. Ils le chargèrent de la croix pour qu'il la portât derrière Jésus. Simon accomplit donc littéralement, sans l'avoir aucunement voulu, le commandement que Jésus avait donné, qui prend une place éminente dans les instructions, on pourrait dire les commandements du Seigneur Jésus. C'est un commandement qu'il ne faut pas que nous oublions, loin de là. Et ce commandement, dans Matthieu 16, 24, le voici. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Si quelqu'un veut venir après moi, il y avait des foules qui suivaient le Seigneur Jésus, poussées à cela par différents sentiments, qui n'étaient pas, bien sûr, celui du salut ou de la recherche du royaume de Dieu. Et c'est en se tournant, c'est surtout à l'adresse de tous ceux qui le suivaient comme cela, que le Seigneur prononce ceci, « Si quelqu'un veut venir après moi, eh bien, il ne faut pas venir et rester comme ça, et me suivre en curieux, me suivre en indifférent, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Eh bien, Simon de Cyrène va littéralement accomplir cette parole. Renoncer à lui-même, il le fait. Il ne peut pas manquer de le faire, car lui, honnête paysan, honnête citoyen, à qui on n'a rien à reprocher, qui fait son travail, qui nourrit sa famille, le voici là, chargé de ce qui était considéré en ce temps surtout comme l'ignominie, le bois ignominieux, le bois du criminel. Le voilà chargé de cela et il se trouve derrière Jésus. Il marche derrière Jésus, littéralement. Il accomplit donc la parole du Seigneur, et nous voyons là, ici, l'intervention de Dieu, du Saint-Esprit, qui a voulu que cette parole de Matthieu 16, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, il a voulu que cette parole fût littéralement accomplie par quelqu'un. Cela nous montre beaucoup de choses. Cela nous montre qu'il ne faut pas être léger avec les paroles de l'Évangile. Tout mot compte, toute pensée compte, tout commandement compte, et doit être pris en compte par celui qui veut être chrétien. Il y a beaucoup de paroles, nous les acceptons en principe, mais nous ne les acceptons pas réellement, pour toute la valeur qu'elles ont, pour toute l'obligation, car je prononce le mot là, qui est celui précisément qu'on peut associer au mot foi. La foi du chrétien est une foi d'obligation. L'Évangile contient un principe d'obligation pour le salut, pour sauver, un principe d'obligation. Il nous est parlé de l'obéissance à l'Évangile, de la soumission à l'Évangile. Un principe d'obligation. Le principe d'obligation C'est le principe des commandements de Jésus. Quand Jésus dit demande de garder ses commandements, cela signifie ne se placer sous le principe d'obligation. Soi-même, librement, bien sûr, mais c'est un principe d'obligation. On ne peut pas parler de salut si l'on écarte ce principe d'obligation. Alors, mes amis, que maintenant tous ceux qui viendront discuter les commandements, qui viendront les amoindrir, qui viendront sous des prétextes quelconques nous dire « non, cela n'est pas nécessaire, cela n'est plus pour aujourd'hui », que cela soit rejeté, que leurs propos, leurs paroles soient écartées. L'Évangile contient un principe d'obligation formelle. Soumettre les âmes à l'Évangile. C'est là le principe, et c'est pour n'avoir pas gardé ce principe que maintenant l'Évangile que nous prêchons, l'Évangile que nous répandons, n'a plus de force. N'a plus de force. Parce qu'on a oublié qu'il contenait le principe d'obligation. De Christ vient le principe d'obligation. Et c'est dans le principe d'obligation que l'homme, le pécheur repentant, trouvera la liberté dont nous avons déjà parlé. Et pour cet homme, donc, voici que soudain, la vie prend un tournant inattendu. La croix qu'il va porter, ce n'est pas n'importe quelle croix. C'est celle du Seigneur. C'est celle du Seigneur qui devient la sienne. Car le Seigneur a bien dit, en effet, de porter sa croix, qu'il me suive, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il se charge de sa croix, la sienne. Mais quelle est la croix de chacun de nous? C'est tout simplement la croix du Seigneur dont il fait ce qu'il doit faire. La croix, notre croix, chacun peut dire pour soi-même, ma croix, c'est la croix de Jésus, celle dont je fais ce que Dieu me propose de faire. Cette croix, je la laisse agir sur moi. Le crucifiement de Jésus, je le porte, je le garde, et puis dire comme l'apôtre Paul, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ, et je reste crucifié, et je reste dans la mort de Jésus pour que la vie de Jésus se manifeste en moi. N'est-ce pas? C'est ça la vérité, mes amis. Ce n'est pas plus dur qu'un christianisme désagrégé. Ce n'est pas plus dur à observer, pas du tout. C'est plus facile. Le vrai christianisme est facile, parce que Dieu intervient. Comme nous avons vu que Dieu soutenait les sacrificateurs, les lévites sacrificateurs qui portaient l'arche et qui pouvaient la tenir des heures durant, il soutient leur corps, leur force. De même, le Seigneur nous soutient si nous portons notre croix comme il convient de la porter. Alors, la vie chrétienne est quelque chose de solide, quelque chose d'heureux, quelque chose de facile. Mes commandements ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Mon joug est léger, à condition de prendre le véritable joug, de porter la véritable croix. C'est celle du Seigneur et il va la porter jusqu'à Golgotha. Mais à Golgotha, ce n'est pas lui qui sera crucifié. Que pouvait penser Simon en regardant Jésus de dos? Il est derrière lui. Vous voyez, on a voulu, le Saint-Esprit a voulu qu'il soit juste derrière lui. On aurait pu le mettre un peu plus loin. Non, il est là, derrière Jésus. Il a cette place que je dirais privilégiée. La place privilégiée d'être derrière Jésus. Que pouvait penser Simon en regardant Jésus? Lui qui venait avec en lui cette révolte de devoir porter cet instrument d'ignominie. Lui qui venait donc avec cette humeur triste, maussade, le voici qu'il regarde. Oui, c'est pour lui, pour celui qu'il suit, qu'il doit suivre, c'est pour lui qu'il porte la croix, c'est sa croix à lui, c'est lui qui va être placé sur cette croix. Et que pensait Jésus ? Jésus n'a-t-il pas prié pour l'âme de Simon ? N'était-ce pas encore là ce merveilleux ministère que le Seigneur Jésus exerçait, oui. Jésus priait pour l'âme de Simon, pour que cette charge lui soit en bénédiction de salut. Et de son côté, Simon n'a-t-il pas ressenti la compassion du condamné? Il est impossible qu'il ne l'ait pas ressenti. Il est impossible que toutes les pensées de son cœur, tout cet état qui était en lui, tout cela ait été transformé, changé. Il y avait en quelque sorte un dialogue muet dans l'esprit entre Simon et le Seigneur Jésus, un lien se formait, un lien, la foi naissait dans le cœur de Simon, la repentance allait y faire son œuvre. Lorsqu'un homme rencontre le chemin qui conduit à la croix, et qu'il aperçoit comme proche le crucifiement avec Jésus, il y a généralement un recul. Ce chemin est contraire au désir de la chair. À un moment, l'Évangile provoque une réaction de recul. C'est contraire au désir de la chair. Ce n'est pas à l'homme naturel que cela est demandé. Il faut que tout de suite apparaissent déjà les premières velléités de l'homme nouveau, de l'homme spirituel. Déjà, il faut cela pour qu'il accepte le crucifixion, et c'est l'homme spirituel qui, en effet, va accepter cela. L'homme qui, convaincu par l'Esprit Saint, accepte l'ignominie, c'est déjà un homme spirituel. Il accepte l'abaissement, il accepte la vue de son péché, et il va jusqu'à la croix, il ne peut pas manquer d'aller jusqu'à la croix, et c'est là qu'il trouvera l'immense joie de sa libération. Le Seigneur Jésus nous a dit, et cela se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 12 et au verset 26, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. » Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. C'est ce que j'appelle le principe d'obligation, et qui est, je vous dis, n'est-ce pas, l'un des principes maîtres de l'Évangile. Le principe d'obligation, il faut que là où est Jésus, là soit celui qui prétend le servir. S'il est ailleurs, s'il voit de loin, comme Pierre regardait Jésus de loin, eh bien, alors là, il n'y a pas de salut. Il n'y en a pas, mes amis. Sachons-le bien ceci. Il faut être derrière Jésus. Il faut aller là où il va. Il faut être là où il est, crucifié avec lui, ressuscité avec lui, enseveli avec lui. Et reprenant vie, et même montant dans les célestes avec lui, assis dans les célestes avec lui, tout avec lui, c'est le principe d'obligation. L'obligation à l'égard, non pas de la doctrine est un instrument simplement, mais à l'égard de la personne de Jésus. Principe d'obligation à l'égard de la personne de Jésus. Ah, il faut absolument, n'est-ce pas, que les idées mièvres, les pensées plates insuffisante que nous savons sur tout la parole de Dieu et sur l'évangile en particulier, il faut que tout ça soit chassé, disparaisse et que nous saisissions les pensées ardentes. L'évangile est un feu que le Seigneur Jésus a apporté sur la terre. Il y a de l'ardeur, il y a des pensées ardentes qu'il faut saisir. L'opprobre et la souffrance seront nécessairement sur la route de celui qui voudra servir Jésus, qui voudra être son disciple. Nécessairement, l'opprobre et la souffrance, et le Seigneur l'a bien dit, le disciple n'est pas plus grand, ça veut dire n'est pas autre que son maître. Ce qu'ils ont fait au maître, ils le feront au disciple. Toujours le même principe d'association avec Jésus, principe d'obligation à l'égard de la personne du Seigneur Jésus. Et il faut même, et nous comprenons cette parole que je rappelais hier de l'apôtre Paul, il faut ajouter aux souffrances de Christ, ajouter dans notre chair, en ce qui nous concerne, ajouter aux souffrances qui manquent encore aux souffrances de Christ, Christ étant entendu comme le corps de Christ, c'est-à-dire l'Église. Il y a des souffrances qui manquent, il faut être dans l'union avec Christ, au point même de supporter son opprobre et de supporter la souffrance. Et nous pouvons dire très bien que l'opprobre et la souffrance sont l'enveloppe de la bénédiction et du bonheur de l'âme. Celui qui emprunte le même chemin que Simon ne se trouve derrière Jésus, il suit Jésus, il est derrière Jésus, dans un sens qui n'est plus le sens littéral, mais qui est le sens sublime de la chose. Alors, il suit Jésus, il est derrière Jésus, et s'il est derrière Jésus, il ne voit que le dos de Jésus, il ne voit pas la mort, il ne voit que la personne de Jésus. Alors Jésus le précède, c'est lui qui franchit la mort, et celui qui le suit ne sera, lui, dans le sens des œuvres de l'Esprit, des œuvres de Dieu, par cette action magnifique de l'Esprit, il sera immergé dans la mort d'un autre, dans la mort de Christ, et il ressuscitera aussi avec lui. Il ne voit que la personne de Jésus, il ne voit plus la mort. Nous arrivons maintenant dans l'évangile de Luc à ce que nous avons lu également, les femmes, au verset 27, je rappelle, il était suivi d'une grande multitude de peuples et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car voici, des jours viendront où l'on dira « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, les mamelles qui n'ont point allaité. » Alors ils se mettront à dire aux montagnes « Tombez sur nous et aux collines couvrez-nous, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» Des femmes suivent Jésus en pleurant et en se lamentant. Mais pourquoi le Seigneur leur dit-il, des jours viendront où l'on dira heureuses les stériles? La stérilité étant un opprobre pour les filles de Jérusalem, un lourd opprobre. Jésus, qui était resté silencieux devant le Sanhédrin, devant Pilate, devant Hérode, se tourne ici vers les faibles et les petits. Ah, c'est bien véritablement vers cela que Jésus aime se tourner, les faibles, les petits du peuple. Et ici, ce sont d'humbles femmes qui lui apportent à leur manière quelque compassion. Et elle pleure sur lui. C'est pour lui, cette compassion. Il le sait, il le sent. Toutefois, cette sensibilité des pleureuses est encore un produit de l'âme. C'est quelque chose que Jésus ne méprise pas, mais quelque chose que Jésus ne prend pas. Ne prend pas. Il ne va pas jouir de cette commisération des femmes. Il ne le prend pas, c'est sur le plan de l'âme. Chers amis, est-ce que nous sommes bien compris? Avez-vous bien compris cela? Sur le plan de la sensibilité seule, sur le plan de l'âme, rien ne se fait. Je dirais même que ce qui se fait sur ce plan, souvent, fait obstacle à ce qui devrait se placer sur le plan de l'esprit. L'esprit de ces femmes reste stérile. L'esprit de ces femmes est stérile. L'âme est en émoi, tout en émoi. Et l'esprit est stérile. Comme le dit Paul pour un autre objet, l'intelligence demeure stérile. L'intelligence spirituelle qui est du domaine de l'esprit, l'intelligence spirituelle qui comprend les mystères de Dieu, eh bien, elle demeure stérile. Ces femmes ne sont pas là. Comme d'ailleurs une excellente femme, une femme très dévouée elle-même, c'est-à-dire Marie de Magdala. Nous avons eu l'occasion de parler au moment de la résurrection du Seigneur. Elle est encore sur le plan de l'âme. Le Seigneur ne va pas lui faire un reproche. Le Seigneur ne va pas faire un reproche à ceux qui sont d'abord sur le plan de l'âme. Mais il ne faut surtout pas rester là. Et là, c'est pourquoi le Seigneur Jésus va leur adresser des paroles sévères. Non pas sévères pour elles, mais sévères quant à la vérité. Il ne va pas aller choisir la vérité accommodante. Non, il n'y en a pas d'ailleurs de vérité accommodante. Mais enfin, on peut dire, n'est-ce pas, les énonciations quand même intermédiaires qui peut-être seraient moins éprouvantes. Non, non, pas du tout. La vérité la plus âpre. Voici des jours viendront, l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, les mamelles qui n'ont point allaité. Des jours viendront, on dira, heureuses cela. Que va-t-il se passer en ces jours-là? Le Seigneur Jésus ne veut pas laisser ces humbles femmes vers qui va sa compassion à lui, mais c'est une compassion de l'esprit. Compassion comme celle qu'il a éprouvée au moment de la multiplication des pains. Il aurait pu goûter cette commisération humble et touchante, mais il ne s'agit pas de lui. Le Seigneur Jésus ne prend rien pour lui-même. Il n'a rien fait de lui-même. Il ne prend rien pour lui-même. Recueillir un réconfort pour lui-même, ah non! Ce n'est pas du Seigneur. Il s'agit toujours pour lui d'éclairer l'esprit de ceux à qui il s'adresse. Éclairer l'esprit, éclairer leur esprit pour les sauver. Alors nous, mes amis, dans notre témoignage ou dans la prédication de l'Évangile, allons-nous essayer de faire vibrer un peu la corde sensible qui va faire naître de douces émotions dans les âmes. Alors, mes amis, nous annoncerons, je le dis, un faux évangile. Nous n'annoncerons pas l'évangile. Nous n'annoncerons pas un évangile qui contiendra le principe d'obligation quant à la personne de Jésus et à son œuvre. Alors, Jésus saisit cet attendrissement des femmes de Jérusalem. Il saisit cet attendrissement pour faire sentir à ces femmes, quoi donc, leur état de péché. Si compatissante soit-elle, si bon soit le mouvement de leur âme en cette circonstance, les laisser là, c'est les laisser dans la mort. Laisser quelqu'un sur le plan des émotions de l'âme, c'est le laisser dans la mort. Et c'est ce qu'on fait dans bien des rencontres charismatiques. Je suis obligé constamment de marquer quel est l'écueil magistral et terrible qui se trouve là. Que fait-on ? Il faut se connaître, il faut s'aimer, l'amour. L'amour des uns pour les autres. Alors, aimons-nous, ayons cette douce émotion de nous connaître et de nous aimer, d'être ensemble, de nous réjouir ensemble. Mais ne parlons surtout pas de ce qui nous divise, ne parlons pas de la vérité. Oh, laissons ces choses-là, laissons ces choses-là. Tout ce qui nous divise, laissons-le. Autrement dit, laissez de côté tout l'évangile et faites de la sensiblerie. Cet amour-là est affreux, mes amis, affreux. Et c'est pourquoi, dans ces rencontres charismatiques, je ne veux pas les condamner tout a priori, mais dans celles qui ont ce caractère, et il y en a malheureusement beaucoup, eh bien, celles où l'on fait de la sensibilité au niveau de l'âme, et alors là, où l'on rejette carrément tout ce qui est de l'épée tranchante, l'épée à deux tranchants, la vérité. Alors, mes amis, savez-vous ce qu'on fait ? Eh bien, on s'installe dans la mort, tout simplement, et l'évangile n'est pas là. Alors, vous pensez que le Seigneur Jésus ne va pas laisser ses femmes dans cet état-là, et il va leur montrer, au contraire, leur péché et l'état de péché du peuple tout entier, du peuple auquel elles appartiennent. Il évoque donc le temps proche des jugements de Dieu, où l'on dira heureuse et stérile, parce que ce jour-là, il y aura les jugements, les terribles jugements de Dieu qui frapperont la terre. Alors, mieux vaudra n'avoir jamais eu d'enfant, mieux vaudra ne pas allaiter à ce moment-là, mieux vaudra qu'il n'y ait point de femme enceinte à ce moment-là, car le moment sera plus dur pour elles. Heureuses, celles qui ont eu l'opprobre précédemment de ne pas avoir d'enfant, car à ce moment-là, elles seront moins exposées que d'autres, ce qui est, n'est-ce pas, je vous le dis, non pas quelque chose qui recherche la sauvegarde des personnes particulièrement, mais c'est une manière de caractériser le temps des jugements. Le temps des jugements qui sera dur pour le peuple. Alors, il évoque donc le temps proche des jugements de Dieu sur ce peuple, et il se sert pour cela des paroles prophétiques qui sont dans le prophète Osée, mais ce n'est pas la peine que nous le relisions, chapitre 10 et verset 8 dans Osée, mais dans l'Apocalypse, nous avons une reprise de cela, au chapitre 6 et verset 16, dans le chapitre qui a trait à l'ouverture des sceaux. Et nous lisons, « Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Vous voyez, n'est-ce pas ? Tombez sur nous et aux collines couvrez-nous. C'est donc bien l'évocation par le Seigneur Jésus des grands jugements de Dieu. Et il ajoute cette petite parabole du bois vert et du bois sec. Si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? Si le bois vert est en effet coupé pour être brûlé, alors, à plus forte raison, le bois sec le sera-t-il, lui aussi ? C'est avant tout le bois sec que l'on coupe pour le jeter au feu. Mais si l'on fait déjà cela au bois vert, à plus forte raison, le bois sec sera-t-il jeté au feu ? Et alors nous traduisons cela sur le plan de la signification spirituelle. Si l'envoyé de Dieu, qu'est le Seigneur Jésus, là, devant ces femmes, l'envoyé de Dieu pour lequel elles sont si affectées, si cet envoyé de Dieu juste et saint, qui est plein de la vie de Dieu, s'il souffre la mort, à combien plus forte raison les pécheurs la souffriront-ils? Si l'on fait cela au bois vert, qu'en sera-t-il? Du bois sec, bien sûr, à plus forte raison, les pécheurs qui sont dans la mort, ceux qui sont morts, souffriront-ils le feu du jugement? Et si Dieu punit le péché des hommes sur son Fils bien-aimé, Dieu a choisi cela, de punir le péché des hommes sur son Fils. C'est que tout péché provoque la mort, et c'est que l'ardeur de la colère de Dieu ne pourra manquer de se porter sur tout péché, mais sur toute créature qui est chargée de péché. Ainsi, pour le pécheur non repenti, la mort de Christ est l'annonce certaine et terrible de la condamnation éternelle. Nous avons déjà dit cela, Christ est la pierre d'angle. Si l'on s'appuie sur lui, c'est bien, alors l'on trouvera le salut. Mais si on la rejette, alors cette pierre, elle vous brisera. Jésus lui-même, n'est-ce pas, doit être les deux choses. Il ne faut pas se méprendre là-dessus. Jésus-Christ est venu à la croix pour être les deux choses. Et c'est bien lui, d'ailleurs, qui va faire la moisson, mais qui fera aussi la vendange. Comme l'Apocalypse au chapitre 19 nous le montre. C'est l'annonce certaine et terrible de la condamnation éternelle. En définitive, Jésus saisit le fait que les femmes pleureuses qui le suivent le voient entraîner sur le chemin de la mort pour leur dire, voyez, en me considérant, puisque vous pleurez sur moi, vous me considérez, eh bien voyez, en me considérant ce qui vous attend, vous, ce qui vous attend, pleurez sur vous, ce qui vous attend, vous, ma condamnation vous paraît injuste. Ces femmes se frappaient la poitrine et elles pleuraient parce que véritablement elles étaient conscientes que c'était un abominable crime, une abominable condamnation. Et elles avaient pour le Seigneur une affection, un mouvement d'attachement, cela n'est pas douteux. Alors, ma condamnation vous paraît injuste et vous la déplorez. C'est là pourtant le grand verdict de Dieu sur le péché, et c'est aussi la voie que Dieu a choisie pour le salut. C'est à la fois un verdict pour le péché, et c'est la voie que Dieu a choisie pour le salut, à condition de l'emprunter, bien sûr. Si l'on brûle le bois vert, le bois vivant, le bois qui est vert, donc qui est vivant, si on le brûle dans le feu dévorant du jugement, qu'en sera-t-il du bois sec, du bois mort, qui lui est déjà destiné au feu? Jésus guide donc ces femmes vers une méditation de sa mort, pour les amener à tout autre chose qu'à la commisération, à cette sensibilité sur le plan de l'âme. Il peut les amener à réfléchir, à voir cette grande chose. Alors ça, c'est sur le plan de l'esprit. Il les transporte sur le plan de l'esprit. Et comment? Vigoureusement. On fait de l'évangélisation doucereuse. L'évangélisation qui ne blesse pas, qui ne risque pas de blesser. On va parler beaucoup de bonheur, venez, on va chanter le bonheur. Et l'on croit que c'est ainsi qu'on va sauver des âmes. Alors c'est pas étonnant, n'est-ce pas, que nous trouvons maintenant beaucoup de gens, et qui sont intéressés, ils sont là, ils viennent à des réunions, Il y a des campagnes, même d'évangélisation, des gens qui viennent. Moi, j'en vois un peu partout où je vais, des campagnes d'évangélisation, alors je demande, je me renseigne. Ah oui, il y a des gens qui viennent, ils sont venus, nous avons eu 150 personnes, 200 personnes, 300 personnes. Et combien en est-il resté? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ou il y en a un. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas normal, n'est-ce pas? Quelque chose qui n'a pas marché, qui n'a pas bien marché. Pourquoi vous avez appelé au bonheur? Les gens trouvent que le bonheur qu'ils ont dans le monde est encore meilleur, préférable. Ils veulent bien goûter un petit peu à celui-là, oui. Et oui, mais il y a des choses qui quand même vous retiennent là de ce côté-là. On est un peu retenu du côté de l'Évangile. Il y a toujours la croix, c'est ça. Et comme on disait il y a pas mal d'années concernant le Billy Graham, quand il débutait, il prêchait beaucoup le péché. On l'appelait l'évangéliste en gabardine. Et on disait de lui, oh oui, il est intéressant. Mais ce qui est désagréable en lui, c'est qu'il parle tout le temps du péché. Oh. Si l'on veut adoucir, arranger, si on veut faire en somme un petit élixir à l'eau de rose de l'Évangile, n'est-ce pas? Eh bien, on ne fera rien du tout. Ce qu'il faut, c'est, vous voyez la méthode de Jésus ici, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car les jours viendront, où on dira « heureuse et stérile ». Quel bouleversement, enfin, annoncer les jugements de Dieu, c'est indispensable, et c'est ainsi qu'on peut amener des personnes au salut. Nous allons encore rapidement voir les deux malfaiteurs qui sont crucifiés à droite et à gauche du Seigneur. C'est d'abord dans Luc 23, le verset 32, « On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. » Puis après, nous nous transportons au verset 39, « L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi, qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal, et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité. » Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et nous avons ici, dans le fait que deux malfaiteurs sont crucifiés avec le Seigneur Jésus, nous avons l'accomplissement d'Ésaïe 53, verset 12, où nous lisons ceci, « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. » Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Il a porté les péchés. Nous avons vu déjà là cette charge réelle qui est celle que Dieu lui-même place sur la personne de son fils bien-aimé. Et il est au nombre des malfaiteurs. Alors, mes amis, là encore, il y a une très belle leçon. Il y a des leçons à toutes les lignes, à tous les mots dans l'Évangile. Alors, il y a une très belle leçon. Malfaiteur, le mot peut être très bien changé. Tout pécheur est un malfaiteur. Enfin, si le mot malfaiteur est à modifier, disons, il a été mis au nombre des pécheurs. Des pécheurs. Alors, il y a trois croix. Trois crucifiés. Au milieu, c'est lui, le Seigneur. Mais il a la charge des péchés. Il est avec deux pécheurs. Ah, mes amis, alors, si l'on veut être avec Moïse et Élie et tous ceux que ces deux hommes apparaissant sur la montagne de la Transfiguration, tous ceux qu'ils symbolisent, qu'ils annoncent d'avant, qu'ils prophétisent, j'aime mieux ça, si l'on veut être au nombre des élus, il faut être au nombre des pécheurs qui sont crucifiés avec Jésus. Et cela, c'est le principe d'obligation de l'Évangile, encore un principe absolu, ce qui veut dire, n'est-ce pas, que l'Évangile n'est pas quelque chose de vibrant, de sentimental pour le plan de l'âme. L'Évangile est une loi, est une règle, la règle de vie. C'est la règle de vie, c'est le principe d'obligation. Ici, nous avons la première des sept paroles du Seigneur Jésus sur la croix. Cette parole adressée aux brigands. Il y a un dialogue des deux brigands entre eux. Il y en a un qui prend une position, lui, de riposte, de contestation, celui-là. C'est l'homme qui ne se laisse pas saisir par l'esprit, et puis l'autre, au contraire, adopte une pensée, une position d'humiliation. Pour nous, c'est justice. Il reconnaît que ce qu'il, évidemment, il voit surtout essentiellement les crimes qu'il a commis contre la société, c'est justice. Nous avons été véritablement des malfaiteurs. Il ne voit pas tellement le péché, mais il voit tout ce qui lui a attiré cette mort, cette condamnation. Nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais cela est une repentance, tandis que celui-ci, il n'a rien fait. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » C'est assez surprenant que ce brigand dise cela, parce que il parle du règne de quelqu'un, il voit les choses évidemment essentiellement comme tout le monde, d'ailleurs comme tous les juifs. Il voit les choses dans un sens, dans un jour temporel, tout se passant sur la terre. Alors, quel est ce règne dont il parle? Celui qui est à côté de lui est associé dans la mort. Ils vont mourir l'un et l'autre. Jésus va mourir comme lui aussi. Alors, de quoi s'agit-il? De quel règne s'agit-il? S'il est roi, il meurt. Alors, comment va-t-il régner? Il croit donc en un règne. Et qu'il n'essaie pas de s'imaginer, de se figurer. Et il y a là une intervention manifeste de l'Esprit de Dieu. L'état de son âme, son humiliation, là, aux côtés de Jésus crucifié, lui procure immédiatement une lumière de l'Esprit. Ton règne à celui qui meurt. Un roi qu'on est en train de faire mourir. Eh bien oui, tu viendras dans ton règne. Il en a la certitude. Vous voyez l'apport de l'esprit, l'intervention immédiate de l'esprit dans tout processus qui conduit un homme au salut. Il y a l'intervention de l'esprit. Ah, alors ça, c'est quelque chose sur quoi il faut que nous comptions avant tout, l'intervention de l'Esprit. C'est très beau, nos paroles. Nous ne sommes pas là, comme nous l'avons dit dans le témoignage de Jésus, nous ne sommes pas là des répétiteurs pour faire des redites, pour répéter ce que nous avons appris par cœur dans la Bible et ce que nous admettons, nous croyons. Nous sommes là pour apporter une démonstration d'esprit et de puissance dans un véritable témoignage de Jésus-Christ. Et c'est alors que l'esprit intervient. L'esprit intervient. C'est magnifique. Il n'y a pas besoin de paroles extraordinaires, de paroles sublimes. Il n'y a pas besoin d'un grand discours, de la sagesse du langage, comme dit l'apôtre Paul, l'art de l'orateur. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je me rappelle, dans une circonstance, dans une assemblée où je faisais un remplacement, j'ai précisément, un dimanche après-midi, parlé de Simon de Cyrène, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et j'ai montré tout simplement, avec les d'une manière très simple, la route de Simon qui croit celle de Jésus, et Simon allant marchant derrière. Et mes amis, immédiatement, à peine avais-je terminé mon message, que deux femmes se repentaient et se convertissaient. N'est-ce pas ? Tout de suite, spontanément, elles y sont toujours, au Seigneur. Deux femmes étaient venues là. C'était la première fois qu'elles venaient dans une assemblée évangélique. Je parle de cela. À peine était-ce fini, elle s'humiliait profondément, se repentait et demandait le salut. Vous voyez, n'est-ce pas, que ce qu'il faut, c'est ouvrir en quelque sorte, si je puis m'exprimer ainsi, ouvrir un chemin au Saint-Esprit, ouvrir la voie dans laquelle le Saint-Esprit va aimer, parce que le Saint-Esprit, attention, il fait ce qu'il veut, n'est-ce pas? Il fait ce qui correspond véritablement à sa mission. Saint-Esprit, c'est Dieu. Alors, si on lui ouvre une voie, véritablement, alors il vient, et sur des paroles simples, il met sa force. Et c'est lui qui apporte la conviction. C'est lui qui fait la conviction de péché, de justice et de jugement. Et le Seigneur, de répondre à celui des deux brigands qui lui demande de se souvenir de lui quand il viendra dans son règne. Alors Jésus lui répond, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Je laisse de côté les discussions fallacieuses qu'on a pu faire porter sur ce verset, et en jouant surtout de la virgule. Dans le grec, mes amis, il n'y a pas de virgule. Alors, c'est pas la peine, ici, il y en a une, n'est-ce pas, mais c'est pas la peine d'aller dire, n'est-ce pas, que la virgule est après aujourd'hui et non pas avant aujourd'hui. Il n'y en a pas dans le texte grec, de virgule. Alors, c'est tout simple, n'est-ce pas. C'est les adventistes qui ne veulent pas que ce soit immédiat, parce qu'ils professent qu'en mourant, on tombe dans l'inconscience. Alors, par conséquent, n'est-ce pas, ce texte-là est gênant. Alors, ils font dire au texte ceci, « Je te le dis en vérité aujourd'hui. » Si, par exemple, moi, en vous parlant maintenant, je vous disais, « Mais sachez bien une chose, c'est que c'est maintenant, c'est aujourd'hui que je vous parle. » Ben, vous le savez bien, n'est-ce pas, vous le voyez bien, ben, c'est clair comme le jour, ben, c'est pas demain que je vous parle, c'est pas hier, c'est aujourd'hui, bien sûr. Alors, en somme, n'est-ce pas, c'est aujourd'hui, et là, quelque chose de factice qui n'a aucune utilité, aucun sens, or, nous sommes dans la parole de Dieu. Mais non, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, ce qui veut dire, aujourd'hui, je vais t'introduire dans la félicité où je vais entrer. Dès aujourd'hui, je vais t'introduire dans cette félicité, car paradis, c'est le mot que les Septante ont employé déjà dans l'Ancien Testament pour parler d'Éden, et Éden veut dire tout simplement lieu de félicité. Félicité, lieu de félicité, entrer dans la félicité. Eh bien, je t'introduirai dès aujourd'hui dans la félicité où je vais entrer moi-même. Et, bien entendu, ce qui se dégage ici, c'est ce que, par ailleurs, l'Écriture nous affirme, et c'est tout cela est conforme à la doctrine, bien sûr, ceux qui meurent dans le Seigneur sont immédiatement avec le Seigneur. Immédiatement, s'ils meurent dans le Seigneur, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, ils sont immédiatement avec le Seigneur, comme Paul en parlait concernant lui-même, ils sont avec le Seigneur et ils sont sauvés par grâce. Et ici nous avons on peut dire, n'est-ce pas, l'exemple magnifique et l'exemple lumineux de cela. sauvé par grâce, parce que ce brigand n'a rien fait, absolument rien fait, sinon ouvrir son cœur pour que il en soit fini des idées de mal qui l'occupaient précédemment, ouvrir son cœur à la grâce et reconnaître que c'est justice pour lui d'être condamné à mort, qu'il a commis des crimes, et de demander au Seigneur de le faire entrer dans son règne, alors le voilà sauvé par grâce. Et on peut dire aussi que c'est quelque chose qui nous montre le salut accordé à certaines personnes humaines à l'ultime moment. Bien sûr, n'allons pas spéculer là-dessus, hein, pas spéculer là-dessus et dire je vais m'amuser et faire tout ce que je voudrais, puis quand je sentirai que j'en peux plus et que la mort est là toute proche avec sa faux, pas, alors là, je dirai « Ah ben Seigneur, maintenant je me convertis ». Non, ça ne marcherait pas, ça, n'est-ce pas? Attention, il ne faut pas spéculer là-dessus. Mais il est vrai que le Seigneur sauve des personnes à l'ultime moment de leur mort. Mais ça c'est un mystère. Un mystère sur lequel Jésus nous a donné quelques éclaircissements, mais pas beaucoup. Il y a là un mystère. Sachons que Dieu est maître de la rédemption, que la rédemption, le fruit de la rédemption, c'est à lui, et qu'il est maître, et que son grand désir, c'est d'augmenter autant que faire se peut, sans bien sûr méconnaître tous les grands principes et le principe d'obligation, mais c'est de sauver le plus grand nombre d'hommes et de femmes. Et que le Seigneur Dieu, dans son amour, s'y emploie. Qu'il soit béni. Amen.